VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 8 mars 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Togo, le gouvernement dément l'existence d'un accord sur la suspension du processus électoral.
Le Conseil de sécurité de l'ONU demande à toutes les parties de travailler ensemble pour la tenue des élections du 23 décembre en République démocratique du Congo.
Plus de 2000 réfugiés burundais en RDC ont été escortés jusqu'au Rwanda hier par les casques bleus de la MONUSCO.
Au Burkina Faso, un hommage national a été rendu hier aux 8 militaires tués dans les attentats de vendredi dernier à Ouagadougou.
Certains pays, dont le Canada et le Mexique, pourraient être exemptés des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium décidées par le président Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi qu'à la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Togo, au lendemain d'une déclaration de l'opposition dénonçant la poursuite du processus électoral par le gouvernement et annonçant la reprise de ces manifestations de rue, le gouvernement dément l'existence d'un accord qui le contraindrait à suspendre le processus devant aboutir aux élections législatives et locales prévues pour cette année. De Lomé, les précisions de notre correspondante Kay Lawson.
Il n'y a jamais eu un accord qui stipule que la coalition cesse de manifester et qu'en retour le gouvernement suspend le processus électoral. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Protection civile et de la Sécurité Yacke Damhan, prenant le contre-pied d'une des raisons évoquées par la coalition des 14 partis de l'opposition pour reprendre les marches. Le gouvernement togolais en conférence de presse ce mercredi a tenu à souligner que les législatives doivent se tenir très prochainement et qu'une suspension du processus électoral pourrait conduire à un vide juridique, ce que le gouvernement ne se permettrait pas. On ne se lève pas un matin pour organiser une élection, elle se prépare à laisser entendre le ministre Yak. Concernant les manifestations de l'opposition de la semaine prochaine, le gouvernement se veut ferme. Aucune manifestation n'est autorisée dans la ville de Sokodé, Bafilo et Mango dans le nord du pays. Les populations de ces trois villes sont plus heureuses sans les marches, a ironisé Yacke Damhan. Rappelons que la coalition de l'opposition a appelé à 4 jours de manifestation de rue la semaine prochaine. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande à toutes les parties de travailler ensemble pour la tenue des élections dans le calendrier retenu du 23 décembre. C'est ce qu'a déclaré hier son président en exercice, l'ambassadeur néerlandais Karel van Ostrom. Lors de consultations à huis clos, les 15 membres du Conseil de sécurité ont aussi condamné le recours à la violence lors de manifestations le 25 février dans différentes localités de la République démocratique du Congo, a-t-il ajouté, à l'issue de leur réunion. Une grève générale est organisée vendredi en mémoire des militants tués ce jour-là par des forces de l'ordre.
Le Conseil déplore profondément la perte de vies humaines et demande aux autorités de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, notamment le droit de se réunir pacifiquement et d'exercer le maximum de retenue dans leur réponse aux manifestations, a précisé le diplomate néerlandais. Ces manifestations de février visaient à demander au président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé en décembre 2016, de déclarer qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle. Sa position à ce sujet reste flou.
Environ 2500 réfugiés burundais en République démocratique du Congo ont été escortés jusqu'au Rwanda hier par les casques bleus de la MONUSCO. Ils craignaient d'être rapatriés au Burundi, Abdourahmane Dia.
Cela faisait 2 mois qu'on était sans aucune assistance de la part du HCR ou des autorités congolaises. On vivait sous les menaces de nos voisins congolais et on craignait de se faire extrader vers le Burundi. C'est ce qu'a expliqué Dionysse Nyandwi, un de leurs porte-parole. Les 2579 réfugiés burundais ont parcouru à pied les 5 kilomètres séparant Kamanyola en République démocratique du Congo du poste frontière rwandais de Bugarama. En septembre dernier, 36 réfugiés burundais avaient été tués au cours d'affrontements avec des soldats congolais au sujet de l'emprisonnement de certains d'entre eux. Des dizaines de milliers de Burundais se sont réfugiés depuis 2015 dans l'est de la RDC pour échapper aux violences dans leur pays. Le Burundi traverse une crise politique depuis la candidature en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza en troisième mandat et sa réélection en juillet de la même année.
Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 reprendra le 21 mars. Ouvert le 27 février, ce procès avait été suspendu après le retrait de tous les avocats de la défense parce qu'ils contestent la légalité du tribunal militaire. Au total, 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux présumés du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés.
Par ailleurs, un hommage national a été rendu hier aux 8 militaires tués dans les attentats d'il y a 6 jours à Ouagadougou, compte rendu de John Linden.
Un millier de personnes, familles des victimes, autorités civiles, militaires et soldats étaient réunis dans l'après-midi pour la cérémonie au camp militaire général Aboubakar Sangoulé-Lamizana, en périphérie de la capitale burkinabé. Les 8 militaires, dont les cercueils alignés étaient recouverts du drapeau national, ont été décorés à titre posthume devant une assistance silencieuse à l'émotion contenue. Une bonne partie du gouvernement a assisté à l'hommage, dont les ministres de la Sécurité Clément Sawadogo et de la Défense Jean-Claude Bouda. Le chef d'état-major général des armées Oumarou Sadou était présent, ainsi que l'ambassadeur de France. Deux attaques simultanées par deux commandos djihadistes ont frappé vendredi dernier l'état-major général des armées en plein centre de Ouagadougou et l'ambassade de France. Outre les 8 morts, 61 membres des forces de l'ordre et 24 civils ont été blessés. 8 djihadistes ont été tués. L'opération a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
À Conakry, plusieurs milliers de femmes en blanc qui se font appeler les Amazones ont marché hier et dans les rues pour dénoncer, ont-elles expliqué, les violences policières meurtrières lors de manifestations politiques en Guinée sous la présidence d'Alpha Condé. Répondant à l'appel des femmes de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, le principal parti d'opposition, les manifestantes ont défilé pendant plusieurs heures dans la banlieue sur le principal axe de la capitale guinéenne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La police britannique a identifié l'agent énervant utilisé dans la tentative de meurtre de l'ex-agent double russe Sergei Skripal et de sa fille. Cette affaire digne de la guerre froide suscite de nouvelles tensions entre Londres et Moscou. Sergei Skripal et Yulia avaient été retrouvés dimanche après-midi inconscients, sans blessure visible, sur un banc près du centre commercial de Maltings à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, puis hospitalisé.
En Syrie, le régime du président Bachar al-Assad a reconquis plus de la moitié de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale. Des dizaines de civils ont été tués hier et la communauté internationale est incapable de stopper le bain de sang Baghessi Koura.
Les forces du régime syrien sont au cœur du dernier bastion des rebelles aux portes de Damas. Elles contrôlent plus de 50% de l'enclave et poursuivent leur progression. Après une offensive terrestre et 2 semaines de bombardements intenses, près de 850 civils ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Soutenu par l'allié russe, Damas n'a jamais caché sa détermination à reconquérir l'intégralité de ce fief rebelle où vivent quelque 400 000 habitants assiégés. Malgré une trêve quotidienne de 5 heures décrétée par Moscou, les frappes aériennes et tirs d'artillerie continuent de s'abattre sur la Ghouta. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait pourtant adopté fin février une résolution réclamant un cessez-le-feu de 30 jours. Le Conseil de sécurité s'est à nouveau réuni hier à huis clos, mais le déluge de feu continue. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a accusé le régime de planifier l'apocalypse.
Certains pays, dont le Mexique et le Canada, seront vraisemblablement exemptés des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium que le président américain Donald Trump doit rendre officielle par sa signature d'ici à la fin de la semaine. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, ces exemptions se justifieraient par des raisons de sécurité nationale. Des sources à la présidence américaine s'attendent à ce que la cérémonie de signature ait lieu cet après-midi même à Washington, et que les mesures entrent en vigueur dans 2 semaines environ. Des élus républicains de la Chambre des représentants ont dans une lettre demandé au président Trump de minimiser, je cite, « les conséquences négatives de ces taxes sur les entreprises américaines s'il maintient sa décision d'appliquer son plan ».
Enfin, un mauvais temps ici aux États-Unis. Le nord-est était hier sous la neige, provoquant l'annulation de plus de 2000 vols dans les aéroports et la crainte de coupures d'électricité pour des milliers de foyers. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire investira plus de 7 milliards de dollars sur 5 ans pour développer ses infrastructures. Il est prévu la construction d'un quatrième pont à Abidjan pour relier la commune de Yopougon au centre des affaires du quartier du Plateau. Il y a aussi une autoroute de 330 km dans le cadre du plan de construction d'une autoroute de 1000 km entre Yamoussoukro et Ouagadougou. La Côte d'Ivoire est la quatrième croissance la plus rapide au monde. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson estime que la Chine met en danger les ressources naturelles de l'Afrique, la stabilité économique et politique à long terme de ce continent. Monsieur Tillerson a annoncé une aide humanitaire de 533 millions de dollars supplémentaires aux populations touchées par la sécheresse et les conflits en Somalie, au Soudan du Sud, en Éthiopie et dans le bassin du lac Tchad. Le patron de la diplomatie américaine est arrivé en Éthiopie, première étape de sa tournée d'une semaine dans 5 pays africains. Les chiffres du commerce extérieur des États-Unis pour ce mois de janvier creusent un nouveau déficit commercial de plus de 56 milliards de dollars, le plus haut niveau à 9 ans sur un mois. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a parlé de 800 milliards de déficit en 2017.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En Ligue des Champions, un club anglais sur deux se qualifie pour les quarts de finale.
Et le finaliste de la dernière édition de cette Ligue des Champions, la Juventus Turin, qui a été longtemps dominée hier soir par Tottenham, mais qui s'en est sortie pour se qualifier. Une victoire 2-1. Higuain et Dybala, buteur pour les Italiens. Si Tottenham est éliminé, Manchester City passe malgré une défaite à domicile de 2-1 face au FC Bâle, sans incidence suite à la victoire 4-0 du match aller.
Les huitièmes de finale de l'Europa League, c'est ce jeudi.
Arsenal et son entraîneur Arsène Wenger n'ont plus que l'Europa League et la double confrontation contre le Milan AC pour sauver leur saison, tandis que l'Atlético Madrid est largement favori face au Lokomotiv Moscou. Lyon, le demi-finaliste de la saison passée, se rend sur la pelouse du CSKA Moscou.
Sur le continent africain, suite hier des 16e de finale de la Ligue des Champions.
L'Espérance de Tunis accrochée au Kenya sur la pelouse de Gormaya, match nul 0-0. Même score en Éthiopie, Saint-George face à Kampala City. Le Zanaco de Zambie battu à domicile, 2-1. Par le club du Swaziland Mbabane, le Zesco United, l'autre club de Zambie, également battu à domicile 1-0 par la SEC Mimosa. Le tout-puissant Mazembe n'a pas fait de sentiment face à Zongo, le club mozambicain. Une victoire 4-0. La Douana Stars du Ghana qui bat Sétif 1-0. L'AS Togo Port qui domine 2-0 à l'Hilal du Soudan. Le MFM FC du Nigeria qui domine le MC Alger 2-1. Le Primero de Agosto qui domine 1-0 Bidvest-Wits, le club sud-africain. Match nul 0-0 entre un autre club sud-africain, Mamelodi Sundowns, qui était en déplacement chez le Rayon Sport du Rwanda. Le choc de la soirée, le Wydad, le WAC de Casablanca, face à un autre WAC, celui de Williamsville, c'est en Côte d'Ivoire. Une victoire des Marocains, 5-2. Enfin, la défaite de l'AS Vita Club, 1-0, chez le Difa El Jadidi du Maroc.
La coupe aussi se jouait ce mercredi.
L'AS Maniema, qui a fait match nul 2-2 sur son terrain face à l'USM Alger. Le RFC Olympique Star du Burundi, 0-0 face à Hilal Obied du Soudan. Le Welaïta Disha d'Éthiopie domine 2-1 le Zamalek d'Égypte. Et puis l'Union sportive de Ben Garban a été battue 3-0 hier après-midi au Congo par le Kara de Brazzaville. Al-Ittihad de Libye qui domine 1-0 l'Aqua United du Nigeria. Et puis Energy Sport du Bénin qui s'incline à domicile 2-0 face à Enimba du Nigeria. Match nul 2-2 entre El Masri d'Égypte sur la pelouse de Simba de Tanzanie. Cape Town, c'est dit le club sud-africain qui s'impose au Mozambique chez le Costa do Sol. Enfin, le Joliba à Bamako qui domine la PR du Rwanda, 1-0. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Utah Jazz et Indiana Pacers 104-84, Toronto Raptors et Detroit Pistons 121-119, Chicago Bulls et Memphis Grizzlies 119-110, Houston Rockets et Milwaukee Bucks 110-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Célébration ce jeudi 8 mars de la Journée internationale de la femme. Au Cameroun, notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap, nous parle à cette occasion de deux femmes qui se distinguent courageusement dans la lutte pour la promotion et le respect des droits de l'homme dans leur pays. Emmanuel Jules Tap.
Maximilienne Gombe, la cinquantaine, a crevé l'écran en janvier 2015 quand le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, a dénoncé en exclusivité les exactions de l'armée dans la région de l'extrême nord.
Dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, les forces de défense et de sécurité ont fait l'incursion dans deux villages parce qu'ils auraient entendu qu'il y aurait des complices de Boko Haram dans ces villages. Sans bien se renseigner, ils ont raflé les deux villages, surtout les hommes et les jeunes. Et nous, on sait qu'il y a eu au moins 130 qui sont décédés dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées et qui ont été inhumées. Jusqu'à aujourd'hui, on demande toujours où, personne ne sait.
Pour Issa Tirou Mabakari, porte-parole du gouvernement camerounais, seules 25 personnes étaient portées disparues. À la tête du REDAC, depuis 2007, la publication de ce rapport en collaboration avec Amnesty International avait été suivie d'actes d'intimidation contre la directrice du REDAC et ses proches. L'avocate internationale camerounaise Alice Combe, rencontrée à Douala par VOA Afrique, se souvient de ce temps de persécution vécu par Maximilienne Gombe.
Elle a été cambriolée plusieurs fois. Elle a fait l'objet d'agressions. On s'est attaqué aussi à ses enfants mineurs qui aujourd'hui sont obligés de faire leurs études et de passer leur puberté hors leur maman.
À Yaoundé, Cyril Roland Béchon, la trentaine, cumule déjà 7 ans d'expérience à la tête de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme. À plusieurs reprises, elle s'est sentie en danger dans l'exercice de ses activités. Cyril Roland Béchon, directrice Nouveaux Droits de l'Homme.
Après la sortie du rapport d'Amnesty International sur la torture au Cameroun, j'ai été séquestrée dans une compagnie de courrier express par des agents de renseignement. On vit au quotidien l'irruption des forces de sécurité et des autorités administratives dans nos bureaux, nous empêchant ainsi de travailler.
Le respect des procédures judiciaires pour des personnes interpellées pendant la crise anglophone et surtout la tenue d'un éventuel procès équitable pour 47 personnes extradées du Nigeria sont autant de thèmes qui retiennent actuellement l'attention de Cyril Roland de Béchon. Le gouvernement camerounais tarde encore à répondre à ses craintes et appréhensions quant aux présumées violations des droits de l'homme des concernés dont on ignore toujours leur lieu de détention. Mais pour les deux militantes camerounaises des droits de l'homme, leur lutte se poursuit encore. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Toujours à l'occasion de la Journée internationale de la femme, au Tchad cette fois-ci, un groupe de femmes appelle au boycott du Pagne 8 mars. Estimant être privées de leurs droits, elles invitent les femmes à ne pas acheter ce pagne et à ne pas le porter lors de cette journée consacrée aux droits des femmes. Nathalie Barge a demandé à notre confrère Moussaï Avenir de la Thierry de passage à Washington quelle place occupent les femmes dans la société tchadienne.
Dire que la femme occupe une place au Tchad, c'est vraiment mentir. La femme est reléguée au second rang. Tout ce qui se dit de la femme se limite dans les discours politiques. Je pense qu'il y a des textes qui octroient 30% des places aux femmes dans toutes les institutions de la République, mais dans la pratique, il n'en existe pas. D'ailleurs, d'abord, pourquoi octroyer 30% de place aux femmes alors qu'on prône l'égalité dans les discours?
Combien y a-t-il de femmes journalistes dans votre rédaction?
Il y en a 3 et je pense que c'est même le meilleur record.
Sur combien de personnes?
3 sur 9. Nous avons toujours essayé de faire mieux, mais les femmes ont peur d'exercer dans des rédactions qui ne sont pas sur la ligne directrice du gouvernement. C'est ça le drame. Sinon, j'en avais 8 ou 9. Mais qui, au fil de temps, sont partis.
À propos, vous-même, vous avez été arrêté à plusieurs reprises au Tchad. Comment ça s'est passé?
J'étais arrêté en tout 19 fois, je crois. La plus longue fois, j'ai mis 4 mois en prison. Sur les 4 mois, j'ai passé 3 jours dans les cellules de services de renseignement où j'étais privé de l'eau et de la nourriture. J'ai vécu sous à peu près 40 degrés dans la cellule où j'étais avec quelques généraux de l'armée arrêtés, semble-t-il, pour une tentative de coup d'État. Ensuite, j'ai été déféré au parquet où j'ai été emprisonné à la maison d'arrêt d'Amsinini. Dans cette maison d'arrêt, c'est vrai, j'étais mis dans des conditions largement acceptables, mais par moments, j'étais privé de la visite de ma famille, de mes avocats et autres. Nous avons vécu ces conditions avec le confrère Eric Toponin qui se retrouve aujourd'hui à la voie de l'Allemagne. Mais pour les autres fois, c'est des emprisonnements de 5 jours, 6 jours, 2 jours, 3 jours. On vous astrait à la diète, pratiquement. Et avec la chaleur qui fait au Tchad, des fois, vous avez une cellule de 50 degrés, ben, il faut y vivre, quoi, 2-3 jours. Souvent, c'est pour peut-être vous demander à révéler vos sources, pour vous dire de faire attention à vos écrits. Mais voilà, il faut continuer, quoi.
Est-ce que dans votre rédaction, vous mettez en avant certaines femmes, certaines personnalités, pour qu'elles aient plus de visibilité, par exemple, des personnalités tchadiennes qui seraient des femmes?
Oui, nous le faisons constamment, mais en même temps, nous dénonçons aussi les femmes qui pillent, qui volent, hein, comme dernièrement... La maire de la ville de N'Djamena, Mme Maria Mataïr, qui s'est rendue coupable de détournement, nous l'avons dénoncé. Mais il y a par exemple l'ex-ministre de la Santé, Ngarmbatna Carmel, qui est une femme très courageuse, qui a dû dire les vérités de la République. Un ministre ne peut pas oser dire, nous l'avons encouragée. Naturellement, nous mettons vraiment en relève les femmes courageuses, les femmes qui font bien, les femmes qui se battent pour la démocratie.
Notre confrère tchadien, Moussa Avenir de la Thierry, directeur de publication d'Avagarde au Tchad.
Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Niger, les enseignants de l'université de Niamey sont en grève illimitée depuis 3 semaines. Ils protestent, explique-t-il, contre l'agression dont a été victime un de leurs confrères, un de leurs collègues. Le syndicat des enseignants-chercheurs conditionne la reprise des cours à l'exclusion des agresseurs. Pour leur part, les étudiants ont assigné en justice les enseignants de l'université en début de semaine. Le point avec le correspondant de VOA Afrique, Abdelrazak Idrissa.
Les faits remontent au 7 février dernier. Comme chaque soir, au départ des bus de transport d'étudiants, la commission des affaires sociales et de l'ordre, la CASO, bloque le passage pour quelques minutes. Ce jour-là, un enseignant, voulant rejoindre son bureau, se présenta à elle. Il lui est demandé d'attendre comme tous les autres usagers, ce qu'il refusa en forçant le barrage selon les étudiants. Il est poursuivi à son bureau par des éléments de la CASO. Il aura la vie sauve avec l'intervention de certains de ses collègues, selon le syndicat des enseignants qui se réunira 2 jours plus tard pour annoncer sa décision d'aller en grève illimitée si ses revendications ne sont pas satisfaites. Kabir Maman, secrétaire général du syndicat des enseignants.
La dissolution de la commission des affaires sociales et de l'ordre CASO et l'interdiction de la création de toute structure similaire par des étudiants. L'identification et l'exclusion immédiate et définitive de l'université Abomouni des étudiants identifiés comme responsables de l'agression exige du recteur de l'université Abou Moumouni, conformément aux franchises universitaires, de prendre des dispositions relatives à la présence permanente de la force publique sur l'espace universitaire en vue d'assurer la sécurité de toutes les composantes de la communauté universitaire. Enfin, exige l'exclusion des étudiants des instances délibératives de l'université Abou Moumouni.
Ces revendications, les étudiants et beaucoup dans l'opinion les trouvent exagérées. La structure des étudiants va tout de même tenter de négocier avec les enseignants. Sita Diabiri, secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
Imaginez que nous sommes partis vers ces enseignants-chercheurs dans un espace de pouvoir dialoguer avec eux afin de trouver une solution et que c'est le SNEC qui nous tourne les dos. Et bizarrement, sur leur mot d'ordre, ils écrivent qu'ils sont disponibles à pouvoir dialoguer avec les étudiants et avec les différents partenaires. Mais quand on part vers eux, ils nous repoussent. Ça veut dire que ça a été juste une action pour pouvoir charmer l'opinion, de dire qu'eux, en tant qu'enseignants, ils sont disposés à pouvoir dialoguer avec nous. Or, on le sait, ce n'est pas le cas. Mieux, ils ont estimé qu'il y a eu une altercation en tant que petits frères, en tant qu'enfants que nous sommes. Pour eux, nous devons nous excuser. Nous nous sommes excusés à travers une lettre ouverte. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas encore de quoi persister dans cette grève-là parce que déjà, ils ont transformé cette université en un
couloirs académiques.
Là, de toutes les tentatives d'un règlement à l'amiable du problème, la structure des étudiants a saisi la justice pour qu'elle déclare la grève des enseignants illégale. La décision du juge est attendue le 13 mars prochain. Abdelrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, déféré au parquet le 7 mars 2017 pour des accusations de détournement de deniers publics, a déjà passé donc une année en prison. Ses partisans ont profité de cette date pour dénoncer une nouvelle fois la détention de leur leader, détention qui, selon eux, est arbitraire. C'était lors d'un grand rassemblement à Dakar. Le point avec notre correspondant Seydina Abagué.
Venus d'un peu partout de la capitale sénégalaise, les militants et sympathisants de Khalifa Sall se sont donné rendez-vous dans l'enceinte de la mairie de Dakar pour marquer la première année de détention de leur leader. Depuis l'incarcération du député maire de la capitale, diverses activités sont organisées par ses camarades de parti pour convaincre les Sénégalais de son innocence. Bassirou Samb est un des coordonnateurs de ces activités de soutien.
C'est de montrer à la population sénégalaise que Khalifa Ababakar Sall n'a rien à se reprocher. Il n'y a ni détournement, ni escroquerie, ni violation de la réglementation en vigueur. Cette manifestation a un caractère particulier parce que pour la première fois, toute la société civile sénégalaise est conviée à cette manifestation. Je considère cette manifestation comme le point de départ d'une lutte qui ne s'arrêtera que lorsque Macky Sall quittera ce pouvoir au soir des élections de 2019.
Bassirou Samb est convaincu que Khalifa Sall est victime de ses ambitions politiques.
C'est une détention qui ne repose sur aucune argumentation juridique, si ce n'est la volonté du président de la République de se choisir ses adversaires pour les prochaines élections présidentielles. Un an de séquestration, un an de tentative de musellement et de dénigrement d'un homme qui n'a fait que décliner une ambition pour son pays. C'est pourquoi nous jugeons que la détention de l'honorable député maire de Dakar est non seulement arbitraire, mais c'est une détention qui ne repose sur aucun argument juridique.
Du côté de la mouvance présidentielle, on affirme que ce procès n'a rien de politique. Amadou Nia, responsable du parti au pouvoir et chargé de mission à la présidence.
Nous sommes dans une démocratie. C'est des faits qui ont été reprochés à Khalifa Sall. Maintenant, c'est à lui de sortir du cadre politique et d'entrer dans le cadre judiciaire pour pouvoir argumenter et puis convaincre les juges. Nous ne sommes ni juges, nous ne nous mêlons pas de ça. Moi, j'estime que Khalifa Sall n'est pas un adversaire sérieux. On s'est rendu compte qu'au niveau du référendum, il a perdu. Pendant les élections législatives, il a perdu. Toutes les élections qui ont été organisées depuis l'avènement de Macky Sall sont gagnées par Macky Sall. Élections locales, élections présidentielles, élections référendaires, élections législatives, encore une fois. Donc, moi, j'estime que Khalifa Sall n'est pas un candidat sérieux. C'est même pas un candidat.
En attendant le 30 mars, jour de verdict du procès du maire de Dakar, ses partisans, convaincus de son innocence, continuent le combat loin des salles d'audience. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA.
Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, effectue sa première visite en Afrique avec pour escale le Tchad, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria. L'occasion de faire le point sur la politique africaine de l'administration Trump. Lutte contre le terrorisme, promotion de la paix, sécurité, bonne gouvernance, commerce, investissement. Quels sont les intérêts des États-Unis en Afrique? Le nouveau locataire de la Maison Blanche va-t-il continuer la politique mise en place par ses prédécesseurs? L'isolationnisme prôné par la Maison Blanche pourrait-il nuire aux relations entre les États-Unis et l'Afrique? On en discute dans Washington Forum. Morgan Guiriac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique. Comme d'hab, comme d'habitude, la question de la semaine à avoir un ou plusieurs amants. Aïe, ça va chauffer. Cette semaine sur RM Show, envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp. Mon numéro n'a pas du tout changé. C'est au 001-703-350-3731. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous en live, en direct. Participez, surtout en nous écrivant, en nous envoyant vos commentaires. RM Show, c'est chaque soir à 20h de l'universel. C'est sur les voix. Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Thomas Blondet. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.